grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Les yeux sont les portes du cœur et les larmes, le messager qui brouille le regard, le temps de son passage, écrit l'une de nos invitées, Anne-Vincent Buffot. Qu'il s'agisse de larmes pour exprimer sa joie ou sa tristesse, pourquoi pleurer fait-il du bien? Quel plaisir tire-t-on à verser des larmes devant un film, en écoutant de la musique ou devant le spectacle de la nature? Nous verrons ce matin de quelle façon les larmes expriment nos émotions. Pleure-t-on autant en public qu'il y a 2 ou 3 siècles? Pleurer en public est-il moins fréquent? Quel sens donner aux larmes des personnalités politiques comme celle du président Obama lors d'une conférence de presse sur les armes à feu en 2016? Les larmes sont-elles forcément un signe de sincérité? Comment reconnaître les larmes de crocodile? Les femmes pleurent-elles vraiment plus que les hommes? Est-ce un cliché sexiste ou bien une réalité? Et puis est-il vraiment possible de ne jamais pleurer? Est-il bon de retenir ses larmes? Nous verrons pourquoi les larmes peuvent nous mener vers une forme de sérénité. Pour nous éclairer ce matin, le philosophe Francis Métivier, l'historienne Anne-Vincent Buffot et le psychiatre François Lelore. Et vous, dites-nous à quel moment de votre vie pleurer vous a vraiment soulagé? Pleurez-vous facilement? Aimez-vous pleurer au cinéma ou en écoutant de la musique? 01 45 24 7 000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Je ne pleure pas quand je vous vois tous les mercredis. Alors, vous portez un regard singulier sur la société française chaque semaine. Et aujourd'hui,
on parlera d'un sujet.
On va pleurer ou pas ?
On va peut-être pleurer. On parlera d'un sujet qui, en tout cas, passionne les Français, les impôts.
A tout à l'heure, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour à tous nos invités. Bonjour Francis Métivier.
Bonjour Ali.
Vous êtes philosophe et vous venez de publier chez Pygmalion un ouvrage plutôt réjouissant, paradoxalement, La philosophie, la joie des larmes, une philosophie des pleurs. C'est publié chez Pygmalion. Bonjour Anne-Vincent Buffot.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous avez publié en poche chez Payot une histoire des larmes. François Lelore, vous êtes psychiatre et vous avez notamment coécrit avec notre ami Christophe André La force des émotions, dernier ouvrage paru, Hector et les lunettes roses pour aimer la vie. Alors dans le Robert, pleurer c'est répandre des larmes sous l'effet d'une émotion pénible. François Lelore, je suis persuadé que votre personnage de jeune psychiatre Hector ne serait pas totalement d'accord avec cette définition. On ne répand pas ses larmes seulement quand on éprouve une émotion pénible.
Oui, mais c'est vrai, Ali, on pleure aussi de joie, on peut pleurer de joie. On pleure, par exemple, lors de retrouvailles, mais peut-être qu'on pleure aussi parce que les retrouvailles rappellent la séparation et la perte. Donc, je pense quand même qu'il y a toujours un petit noyau de, enfin, nous inviterons leur avis, de perte ou de souvenir de la perte ou de tristesse. Et même les pleurs de la victoire, souvent, c'est parce qu'on pense aussi à toutes les épreuves qu'on a traversées. Et puis les pleurs, bien sûr, mais les invités le diront aussi, c'est aussi un geste, enfin une émotion d'abord, c'est lié à une émotion, et c'est très social, dire pleurer ensemble crée un lien très fort, peut-être plus encore que rire ensemble. On a déjà ri avec beaucoup de gens, on n'a pas pleuré avec beaucoup de gens.
Anne-Vincent Buffot, vous écrivez joliment dans votre histoire des larmes qu'entre silence et langage coulent les larmes.
Oui, les larmes, effectivement, sont à la fois une adresse, mais c'est une adresse sans domination, c'est-à-dire sans langage. Donc c'est quand même déjà un lien avec autrui, mais en fait, il y a une incertitude quant à la réponse qui sera faite. Et effectivement, ce que j'ai étudié, c'est que la réponse qui était faite aux larmes d'autrui variait énormément selon les époques, selon les sexes, éventuellement selon les classes.
Il existe une grande variété de larmes. Les larmes sont riches de sens, de l'œil humide au torrent de larmes, en passant par les sanglots étouffés ou les chaudes larmes. Elles peuvent être discrètes, démonstratives, réservées à l'intimité ou versées en public.
Oui, bien sûr. Donc, il y a toute une qualité de larmes qu'on peut décliner et que, effectivement, on a vu évoluer aussi parce que le partage des larmes au XVIIIe siècle, par exemple, permet aussi de partager des valeurs. C'était un peu une mode des larmes, mais derrière ces larmes, il y avait beaucoup d'idées.
Francis Métivier, grande variété des larmes.
Très très grande variété, mais je crois qu'il y a une essence du pleurer, c'est-à-dire que au-delà de la diversité des raisons pour lesquelles on peut pleurer, très triste ou apparemment joyeuse, il y a toujours une douleur, même dans les larmes de de plaisir, même dans les quand on rit aux larmes, il y a toujours en arrière-fond soit une douleur physique, soit une souffrance morale. C'est ça l'essence du pleurer en quelque sorte. Et je crois que ce qui réunit finalement toute cette diversité, c'est l'idée que si je résumais la thèse du livre en deux mots, pleurer liquide. C'est-à-dire il y a quelque chose de dur en nous qui n'arrive pas à sortir et pleurer, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui se liquéfie, qui se soulage en quelque sorte. C'est à la fois, alors c'est pour ça que c'est philosophique, c'est à la fois esthétique parce que on se soulage de quelque chose, donc on prend un plaisir, pas un plaisir, pas une jouissance, mais un plaisir au sens d'Épicure, c'est-à-dire on se débarrasse d'une douleur ou de l'intensité d'une douleur, mais c'est aussi éthique, c'est courageux de pleurer.
Pourquoi c'est courageux?
Parce que, alors, des fois on fait pas exprès, on peut pas se retenir, mais je crois qu'il faut pas se retenir de pleurer justement. Et le courage de pleurer, c'est pour ça qu'il y a une dimension éthique aussi à cette esthétique des pleurs. Ne pas se retenir, c'est justement ne pas retenir en soi ce qui nous réduit à un cœur de pierre.
Anne-Vincent Buffaut, c'est courageux de pleurer?
Certes, mais je pense que c'est courageux, ça dépend pour qui. C'est peut-être courageux de pleurer quand on est un homme et de pleurer en public. Voilà.
François Lelor.
Mais je crois que ça dépend aussi des cultures, parce que l'homme traditionnel, enfin le culte viril traditionnel, un homme contrôle ses émotions et ne pleure pas. Et d'ailleurs, il y a un proverbe chinois que m'avait raconté une amie chinoise et qui se retrouve aussi au Vietnam et qui dit « Un homme en bonne santé ne pleure jamais. » Un homme, c'est ça qui est important. Les femmes, oui, d'accord, elles peuvent pleurer. Mais... Donc ça dépend beaucoup des cultures. Et je ne sais pas, par exemple, si un président de la République pleurait en public, il faudrait que ça soit quand même pour de bonnes raisons. Pas qu'il pleure sur lui, il serait disqualifié aussitôt. Sur les souffrances de combattants, oui, ça serait noble.
Francis Métivier.
Bah, si on prend l'exemple d'Obama, il pleure à la fois sur lui et sur autrui. Enfin, il pleure sur lui.
Rappeler les circonstances.
Bah, c'est quand il n'avait pas réussi à réformer la loi sur les armes et qu'il y avait eu des enfants tués. Donc, il pleurait à la fois d'impuissance. Donc son impuissance à lui, mais aussi il pleurait les morts qu'il avait eues liées à son impuissance. Et nous, on pleure avec lui d'une certaine manière, parce que, comme dit Schopenhauer, on a pitié de l'autre que si on a pitié de soi-même. Donc c'est toujours un mélange de sentiments qu'on éprouve à l'égard de l'autre et de sentiments qu'on éprouve à son égard. Il y a une communauté des pleurs. On comprend Obama quand il pleure, comme on comprend Hollande quand il pleure au moment de Charlie. Voilà, il y a de bonnes raisons de pleurer et je crois qu'il n'y a aucune raison de se retenir.
Le titre de votre livre, Francis Métivier, c'est La joie des larmes. Pourquoi parler de joie des larmes?
C'est une joie au sens spirituel, intellectuel. C'est pas une joie au sens de Patrick Sébastien, on fait tourner les serviettes. C'est la joie au sens de Spinoza, la joie spirituelle. C'est, encore une fois, ça nous liquide, ça nous vide intérieurement de quelque chose de dur et de pesant. Donc il faut le faire, il faut le faire.
Je vous cite, pleurer nous fait du bien, car cet acte nous permet de dépasser nos peines en les sublimant.
Ouais, soit les peines, elles restent à l'intérieur de nous et on n'en fait rien. Ou alors ça se traduit en agressivité, mais là je suis pas psychiatre. Soit on les libère et on en fait quelque chose. Il y en a qui en font de l'art, il y en a d'autres qui en font des émissions de radio. Mais je crois qu'il faut en faire quelque chose. Oui. Les larmes ne sont pas vaines, en tout cas.
Allez, à quel moment et dans quelles circonstances pleurer vous fait-il du bien? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Nicolas Bove, à la réalisation Stéphanie Texier. Lips Inc. interprété Funky Town.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures?
Mais je pleure pas, c'est la pluie.
Grand bien vous fasse.
Et voilà ce qui est Fontaine Wallace. C'est vous dire si j'étais prédestinée aux larmes.
Sur France Inter.
10h19 et ce matin on s'intéresse aux bienfaits des larmes. Vous pouvez témoigner au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Eh bien moi je pleure tout le temps. C'est-à-dire que pour moi pleurer c'est un peu comme se laver les dents. Je pleure dès que quelqu'un m'émeut, je pleure dès que j'ai un petit souci, je pleure quand j'ai trop de travail. Donc c'est assez prophylactique, ça me fait du bien généralement. Voilà, c'est assez naturel pour moi de pleurer. Ce qu'il y a, c'est que c'est très fatigant en même temps de pleurer. Donc en vieillissant, je finis par me dire qu'il faudrait peut-être que ça s'arrête. Mais je pleure tout le temps, je pleure au cinéma quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet du film. Je pleure en lisant. Et je pleure pour la 50e fois devant La Mélodie du Bonheur, qui est quand même un film charmant mais un peu désuet. Donc je suis une très bonne cliente des larmes. J'ai 3 filles, donc elles ont d'abord été médusées de voir leur mère pleurer dans des circonstances... Par exemple, je pleure quand j'écoute Julien Clerc, parce que c'était mon chanteur fétiche quand j'avais 10 ans. Ça les fait marrer, par exemple. Elles disent, mais comment est-ce que maman peut pleurer en pensant à Julien Clerc ?
Ce n'est rien.
Extrait de Sur les Docks sur France Culture en 2011. Francis Métivier, vous publiez La Joie des Larmes. Pourquoi on pleure souvent en écoutant de la musique ?
Parce que pleurer, c'est, comme je le disais, c'est liquide, c'est fluide, ça coule. C'est un mouvement physiologique et la musique répond à la même définition. C'est-à-dire c'est un mouvement, pas physiologique mais esthétique, et les deux coulent ensemble. Ce sont deux mouvements qui vont dans le même sens, qui se rejoignent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que une chanson nous rappelle toujours quelque chose. Et dans des périodes un peu critiques de la vie, quand par exemple on s'est fait larguer, on a tendance à ramener à soi toutes les chansons où le type ou la fille raconte que qu'il ou elle s'est fait larguer. Donc on a une sorte de récupération à soi, narcissique finalement, en tout cas égoïste, du morceau, qui fait que on se retrouve dans une communauté de pleurs en fait. On s'identifie à celui qui chante et on pleure aussi de joie dans ces moments-là parce que on voit que quelqu'un nous comprend, enfin éprouve la même chose que nous. On n'est pas seul.
François Lelore.
Oui, enfin, quand en vous écoutant, je pensais à cette chanson Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, qui te fait la chanson de la rupture, et aussi.
Ça vous fait pleurer?
À certains moments, oui, ça aurait pu me faire pleurer. Et aussi à Cry Me a River, très très bonne chanson. Et je pense aussi dans l'important là, dans les larmes, c'est que souvent, même quand nous sommes seuls, elles correspondent souvent à un besoin de consolation. C'est-à-dire, il suffit de voir les enfants, les petits-enfants pleurer, ça déclenche aussitôt la consolation des adultes. Et je pense qu'on a ce souvenir en nous, même quand on est seul, et qu'on a ce besoin de consolation. Mais alors, c'est là qu'il ne faut pas pleurer devant tout le monde, parce que tout le monde n'est pas disposé ou prêt à vous consoler.
Alors François Lelore, je rappelle que vous êtes psychiatre. Les larmes sont connectées à nos émotions. Racontez-nous ce qu'est une émotion et pourquoi elles sont liées aux larmes.
Mais une émotion, si vous voulez, c'est une réaction à une situation qui à la fois qui se manifeste sur notre visage, mais par exemple par les larmes, par la modification du visage quand on a un sanglot, par des pensées, alors qui sont souvent liées, par exemple là, dans le cas des pleurs, à l'abandon, à la perte, aux souvenirs douloureux, et puis aussi parfois par des comportements, c'est-à-dire que, par exemple, quand on se met en colère, on a les poings qui serrent, on a envie de frapper. Là, dans les larmes, en général, on a plutôt envie, en général, soit de s'isoler, soit de chercher la consolation. Mais l'émotion, c'est involontaire, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut après contrôler, mais qui vous survient et qui vous submerge parfois.
L'émotion est immédiate et involontaire, et c'est pour ça qu'il est difficile de retenir ses larmes comme de s'obliger à pleurer.
Absolument, et alors il y a des gens plus ou moins forts pour ça, par exemple, et on s'entraîne, par exemple, je veux dire, en tant que psychiatre, parfois les gens vous racontent des choses terribles, et évidemment, ils ne s'attendent pas à ce que vous pleuriez avec eux, donc il faut à ce moment-là être capable de retenir ses larmes pour garder, enfin, certes montrer de la compassion, mais garder quand même une étude professionnelle, mais ça s'entraîne, enfin tous mes confrères sont capables de ça.
Bonjour Léa, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous avez 27 ans, vous habitez Caen. Alors vous pleurez souvent pour des raisons très diverses.
Oui, je considère ça comme une expression. Donc je peux pleurer quand je suis triste, évidemment. Je peux pleurer de joie. Je vous entendais parler de retrouvailles, effectivement. Voilà. J'ai pas de. Je me laisse aller en fait assez facilement.
Qu'est-ce qui provoque ces pleurs le plus souvent? Comment vous expliquez que vous pleuriez aussi souvent dans des circonstances très diverses?
C'est une émotion, mm-hmm. c'est une certaine sensibilité.
Et comment c'est, comment réagissent vos proches, votre entourage quand vous pleurez?
Ils sont assez habitués. Mmh. Parce qu'en fait j'ai toujours pleuré, donc mes amis ont toujours dit de moi que j'étais très sensible, parfois que j'étais fragile, et ça j'étais pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi pleurer c'est pas une expression de fragilité.
C'est intéressant ça, François Lelort, ce que ouais. nous dit Léa, c'est souvent on prend ça, enfin le fait de pleurer, comme une preuve de faiblesse.
Disons, c'est une preuve d'émotivité, mais l'émotivité n'est pas forcément une faiblesse. À l'inverse, il y a des gens qui expriment peu d'émotions, qui ont l'air d'en sentir mieux et qui ont du mal à faire face aux difficultés de la vie.
Francis Métivier.
C'est forcément l'expression d'une faiblesse, mais l'intérêt, c'est de dépasser justement cette faiblesse, d'assumer ses larmes. Alors, pas, non pas faire exprès de pleurer, mais de se laisser aller. Et c'est là qu'on retrouve une certaine... Enfin, pas une force des larmes, mais un courage de pleurer, oui.
Anne-Vincent Buffaut, je rappelle que vous êtes historienne.
Oui, non, mais je pensais aussi aux enfants, quoi. En fait, un nourrisson pleure. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est dépendant des autres et qu'il est impuissant, et que c'est un appel. Et en fait, il y a toujours ça dans les larmes, quelque part. Il y a cette capacité négative qui est d'interpeller l'autre parce qu'on n'est pas capable de s'en sortir tout seul. Voilà, mais justement, c'est quand même nécessaire qu'on soit ouvert aux autres et qu'on soit capable de cette impuissance.
Léa, il y a des lieux où vous vous interdisez de pleurer ? Au travail, par exemple ?
Alors, je suis sans emploi actuellement, mm-hmm. donc c'est vrai que je me rends pas bien compte de si je serais capable de faire ça aujourd'hui. Mm-hmm. Il se trouve qu'en fait, je me l'autorise beaucoup plus facilement avec l'accident de parcours, disons, que j'ai vécu, mm-hmm. Étant donné que mon ami a été diagnostiqué d'un cancer en 2016. Mm-hmm. Et ce qui a été le plus difficile pour moi à ce moment-là, c'est justement d'avoir beaucoup de proches, beaucoup de gens autour de moi, même du personnel médical, qui me disaient qu'il fallait surtout pas que je pleure, qu'il fallait que je cache cette faiblesse absolument à mon ami, qu'il fallait que je sois hyper forte. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a été le plus difficile à vivre. Et depuis, justement, je me dis, bah voilà, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de montrer à un certain moment que je vais pas bien, sans m'épandre forcément, mais voilà, à un moment, lâcher quelques larmes, ça fait du bien et ça permet justement, je vous entendais dire, de recontacter un petit peu une force au fond de nous et de repartir un peu de l'avant.
François Lehor, vous avez l'air étonné qu'on puisse demander à Léa de ne pas pleurer.
Je ne connais pas la situation, mais on pourrait imaginer aussi que, par exemple, que si Léa pleurait devant son ami, donc qui est malade, lui, ça le mettrait peut-être dans le rôle de consolateur, d'avoir envie de la consoler. Ce qui, d'une certaine manière, le remettrait dans une position un peu plus forte et peut-être qu'il aiderait, parce que consoler les autres, ça fait du bien aussi de sentir qu'on est capable de les consoler.
Merci beaucoup Léa, continue à pleurer si ça vous fait du bien et merci d'avoir témoigné ce matin. Bonjour Claudine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de l'Isle-Adam. Alors Isle-Adam, vous également, vous pleurez assez souvent, autant de tristesse que de joie.
Oui, je pleure. En fait, j'assume parfaitement mes émotions. Sans doute parce que enfant, j'ai 64 ans, donc les parents ne montraient pas les leurs, même dans des situations extrêmement graves, pénibles de la vie. Et enfant, c'est une chose qui m'a beaucoup bousculée de voir mon père, en particulier, ne jamais pleurer, même lorsqu'il était complètement ravagé par ses émotions. Et quand je me suis construite comme adulte, j'ai fait le choix, quelque part, d'assumer ça, d'assumer ma sensibilité, que ce soit pour rire, pour la question qu'on ne se pose pas quand on rit, on ne se pose pas la question pourquoi on rit, est-ce qu'on a le droit de rire, même des fois dans des circonstances difficiles de la vie. Et donc, en fait, j'avais envie d'assumer la personne que j'étais, de rejeter ces barrières parentale et qu'elle est mise entre les émotions et l'être. Donc moi je peux pleurer pour des choses très immatérielles. La musique, j'ai assisté il y a très peu de temps à Lâcher de lanterne dans la ville de Bayonne. J'étais avec mon fils, j'ai pleuré à chaudes larmes. Dès le moment j'étais en proie à une espèce de communion de tous ces enfants quelque part réunis et qui étaient en train de vivre un moment absolument magique. Alors il y a les instruments de musique qui me bouleversent profondément, le bandoneon, la cora, voilà. Et je veux assumer ça, en fait.
C'est intéressant, Anne-Vincent Buffaut, ce que nous dit Claudine. Elle assume haut et fort de pleurer.
Oui, tout en s'opposant au modèle parental qui était vraiment dans la retenue, etc. Donc, il y a comme une impression de libération de ce qu'on ne s'autorisait pas. Après ça, je pense qu'il faudra qu'on nuance un peu cette libération.
Francis Métivier.
Oui, pleurer est encore très souvent un tabou, enfin un interdit. Alors c'est peut-être un interdit qu'il faut faire sauter partiellement, mais je crois que l'interdit, enfin le tabou, est lié au fait que quand quelqu'un pleure, ça embête toujours quelqu'un d'autre, ça embête toujours les gens. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas pleurer avec ou devant n'importe qui, mais cet interdit moral, ne pleure pas, est lié au fait que ça embête les autres, tout simplement.
C'est intéressant ce que vous dites, pourquoi quand quelqu'un pleure, ça provoque soit de l'empathie, soit de la gêne. Comment on explique ça, François Lelore?
Je pense que la gêne, on l'éprouve parce que soi-même, on a un petit peu l'interdit de pleurer, surtout par exemple en situation professionnelle, donc quand on voit quelqu'un qui se font en larmes, on se dit, ah là, le pauvre, il est en train de se mettre dans une mauvaise position, de se faire peut-être mal considérer. Et puis la gêne, c'est bah, parfois, on peut avoir provoqué ses pleurs, ou se sentir incapable de les consoler. Donc on voit une souffrance, en même temps on se sent désarmé devant cette souffrance, donc effectivement on est gêné.
Oui, et puis autre chose, c'est l'authenticité des larmes d'autrui. Qu'il y a beaucoup de... enfin, sur les larmes féminines, c'est ce qui pèse en fait très lourdement, c'est le fait qu'on pensait que les femmes maniaient les larmes comme un chantage. Et donc, dans ce sens, les hommes étaient très prévenus contre les larmes des femmes qui, comme disait Flaubert, pleurent pour obtenir un cachemire ou se faire pardonner une infidélité. Donc, bien évidemment, on peut aussi mettre en doute l'authenticité et la spontanéité des larmes.
François Lelore.
Oui, mais ça me ramène aux enfants, ce que vous dites, parce qu'on voyons les enfants, les petits enfants pleurent volontiers. L'autre jour, je voyais un petit enfant qui a laissé tomber un gâteau qu'il avait fait. Le gâteau s'est cassé en 1000 morceaux. Il a immédiatement fondu en larmes. Et là, j'ai été impressionné par la rapidité de la réaction de consolation de l'institutrice, des autres parents. Et je me suis dit, bon, voilà, les larmes, c'est vraiment ce qui fait consoler.
Oui, c'est pour ça qu'il faut, je pense, distinguer pleurer et pleurnicher. Pleurnicher, c'est artificiel, on se force, ça peut aller très rapidement, c'est presque un réflexe, pas conditionné, mais un réflexe social. Ce sont les pleureuses à l'occasion d'un enterrement, mais pleurer a quelque chose d'authentique. Pleurer, pleurnicher, effectivement, c'est toute la différence entre ce qui est spontané et ce qui est artificiel.
Merci Claudine de nous avoir appelé. Alors justement, sur les larmes un peu artificielles, comment on reconnaît des larmes sincères et des larmes de crocodile? C'est vraiment possible, François Lelore, de les distinguer, à moins d'être un fin observateur, très psychologue?
Honnêtement, je ne sais pas. Il y a une question de contexte, mais je crois qu'il y a des... Si on prend, par exemple, il y a des acteurs ou des actrices qui savent pleurer avec un parfait naturel. Mmh. Et j'avais posé un jour, je m'étais retrouvé à parler avec Simon Pegg, qui est un acteur comique, mais qui dans ce film-là devait pleurer. Et je lui ai dit, mais est-ce que quand vous pleurez, est-ce que vous fabriquez une émotion qui va vous amener des larmes, ou est-ce que vous commandez en quelque sorte votre expression faciale, etc. Il dit, non, moi je ne recrée pas d'émotion, je commande en quelque sorte mon expression à mes larmes. Alors, je veux que tous les acteurs ne feront pas la même
chose.
Oui,
parce qu'il y a la célèbre méthode de l'acteur studio, évidemment. Voilà. On va fouiller dans ses émotions anciennes, enfouies, voilà. et qu'on fait ressurgir au moment de la scène, Anne-Vincent Buffaut.
Oui, à ce propos-là, ce qui est intéressant aussi, c'est le deuil, en fait. Parce que dans le deuil, malgré tout, on aurait une obligation de pleurer. Et donc, il y a toujours ce problème. Est-ce que c'est à la fois... Enfin, c'est ce que disait Marcel Mauss, c'est que ça peut être à la fois obligatoire et spontané. Que finalement, nous, on oppose toujours l'obligation et la spontanéité. Et parfois, dans certaines circonstances, bah, c'est un rituel social, quoi. Et il y a toujours le problème de la personne qui n'arrive pas à pleurer, même quand elle est très triste. Et Montaigne en parle, il raconte effectivement que souvent on pleure à contre-temps. C'est-à-dire qu'on pleure sur un autre deuil ou sur une autre douleur plus faible, alors qu'on n'a pas pleuré pour... comme disait Camus, il n'a pas pleuré, l'étranger n'a pas pleuré la mort de sa mère. Et on l'accuse de tous les méfaits parce qu'il n'a pas pleuré la mort de sa mère.
Et puis on peut éclater de rire
en plein deuil,
en plein enterrement. Julien Bisson.
Oui, moi je voulais revenir sur la distinction entre pleurer et pleurnicher chez les enfants, parce que je pense qu'elle est très importante dans le fait ensuite de parler avec ses enfants des pleurs. On a tendance à dire aux enfants, ne pleure pas, arrête de pleurer. Ouais. Alors même que souvent, c'est plutôt arrête de pleurnicher.
Oui.
Le pleur sincère, le pleur authentique des enfants, qui est le plus souvent est très authentique, il faut bien leur apprendre qu'ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit, il faut qu'ils puissent se l'accorder. Parce que si on est toujours ensuite, en tant que parent, dans l'interdiction de pleurer, là, pour le coup, ça atteint ensuite des répressions qui peuvent avoir, à mon avis, des conséquences un peu dommageables sur l'adolescence et la vie adulte.
Après, la différence entre pleurer et pleurnicher, j'ai l'impression que ça se joue sur une différence de volume, de liquide. Oui. Celui qui pleure peut vraiment pleurer longtemps et beaucoup. Et puis celui qui pleurniche, finalement, sort quelques larmes, mais pas plus que ça. Enfin, c'est pas un critère suffisant, mais la quantité de larmes, je pense, est assez décisif.
Alors, à propos de liquide, sachez que les larmes sont composées d'eau, de sel, de lipides, de glucose, d'urée, qu'il s'agisse de larmes après avoir épluché des oignons ou pendant un chagrin d'amour. Mais attention, les larmes d'émotion sont beaucoup plus concentrées en protéines et en hormones, notamment la prolactine. Alors, certains chercheurs affirment que cette hormone, la prolactine, expliquerait pourquoi les femmes pleuraient davantage que les hommes. Anne-Vincent Buffot. C'est une question délicate. C'est une question délicate, mais les femmes pleurent peut-être davantage que les hommes, mais c'est surtout pour des raisons culturelles.
Exactement. C'est-à-dire qu'on dit pleurnicher, c'est vrai que c'est aussi le regard masculin sur les larmes féminines. Et effectivement, la valeur montante, c'est la larme rare aussi. La larme d'Obama, elle est quand même très maîtrisée. C'est-à-dire qu'il n'a pas le visage qui se décompose. Mmh. Elle coule sur son visage. Enfin, c'est d'une classe inouïe, voilà, quand il pleure. Alors qu'il y a un sénateur américain, dont j'ai oublié le nom, qui n'arrêtait pas de pleurnicher, pour le coup. Et alors, tout le monde considère qu'il est totalement ridicule. Donc, maîtriser l'art des larmes, pour un politicien, par exemple, c'est un vrai enjeu.
Mais est-ce qu'on sait si les femmes pleurent vraiment plus que les hommes? François Lelor.
Oui, enfin, moi je me souviens d'avoir vu des études qui, en tout cas dans notre culture, c'est clair, les femmes pleurent plus que les hommes, ont la larme plus facile que les hommes. Alors après, c'est le grand débat, est-ce que c'est culturel ou est-ce qu'il y a une part d'innée? Enfin, moi je pense qu'il y a une part d'innée, puisque bon, les femmes ont aussi spontanément plus d'empathie, enfin. Donc c'est assez logique qu'elles aient, disons, une facilité de larmes plus facile que nous.
Alors j'ai l'impression qu'on pleure de moins en moins dans l'espace public, contrairement à il y a 2 ou 3 siècles, Anne-Vincent Buffot. Au XVIIIe siècle, pleurer en public, chez les hommes notamment, n'était pas vu comme un signe de faiblesse. On pleurait beaucoup au XVIIIe siècle.
C'est-à-dire qu'on allait au théâtre voir ce qu'on appelait des comédies larmoyantes, où effectivement c'était d'usage de pleurer, donc les dames sortaient leurs mouchoirs, les étalaient sur... Et en fait, bon, il faut bien dire aussi qu'il y avait de la lumière dans la salle, donc tout le monde se donnait le spectacle de la sensibilité, et on attendait les scènes de larmes, et en fait, si vous voulez, il n'y avait pas non plus de décalage entre l'émotion et le jugement critique et esthétique sur la qualité de l'acteur, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte de mode des larmes, qui faisait que les gens venaient chercher ce partage des larmes en public.
Et à partir de quel moment est-il devenu l'apanage des femmes, des enfants et du peuple de pleurer, en public notamment?
C'est plutôt le 19e siècle, effectivement. Donc en fait, on voit que pendant tout le 18e siècle, les larmes sont valorisées. Et effectivement, au 19e siècle, on voit que d'une part, elles s'intimisent et elles se féminisent. Jusqu'à dire aussi que il y a que le peuple qui vient pleurer au mélodrame. Et qu'est-ce qu'écrit le journaliste? Il écrit, ils ont l'incontinence des larmes. C'est-à-dire que dès qu'on veut dévaloriser les larmes, on les relie aux liquides corporels, ce qui sont effectivement l'urine, le lait maternel, les règles des femmes. Hein, voilà.
Francis Métivier.
Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, au 18e, c'est le siècle de la raison et on s'interdit pas de pleurer en public alors qu'on devrait. Alors que le 19e, c'est le romantisme, c'est l'épanchement des sentiments. Et justement, ça aurait dû peut-être, je sais pas, créer une mode publique, pleurer en public, comme on s'est suicidé après avoir lu Les souffrances du jeune Werther de Goethe.
Voilà. Mais quand on lit les romantiques, en fait, ils ont vraiment un problème pour partager les larmes entre hommes et femmes. En fait, il y a toujours un décalage, en fait, entre les pleurs féminins, donc les fleurs, elles pleurent beaucoup. L'homme n'arrive pas à le consoler, et puis après, il a beaucoup de regrets, alors il pleure. Enfin bref, mais il pleure pas. On sent vraiment de façon heureuse et harmonieuse, quoi.
Ouais. Oui, parce que chez les romantiques, c'est souvent lié à la rupture amoureuse à l'incapacité d'aimer. Rupture entre l'homme et la femme. Oui.
Alors il pleure rarement public, à la manière d'un samouraï médiéval. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Chaque semaine, vous portez un regard singulier sur la société française. Et cette semaine, un sujet qui peut faire pleurer certains de nos compatriotes.
Oui, oui, un sujet qui doit faire pleurer dans quelques chaumières. Quelques-uns ont peut-être même versé une larme en découvrant hier leur fiche de salaire amputée du prélèvement à la source. Oui. N'est-ce pas, mon cher Ali? Il faudra leur rappeler la maxime de Benjamin Franklin, selon qui, en ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts. Les impôts, donc, qui constituent pour plus d'un Français sur deux le thème prioritaire du grand débat engagé depuis deux semaines, avec d'ores et déjà des dizaines de milliers de contributions sur le sujet, dans les mairies ou sur Internet. Lisez-les, vous verrez, tout y passe. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, baisse de la CSG sur les retraites, suppression des niches, lutte contre l'évasion fiscale, même l'instauration d'une TVA à 40% sur les produits de luxe. Bref, un grand fourre-tout qui traduit l'exaspération des Français sur la question fiscale, mais aussi la concentration des demandes sur quelques mesures qui sont finalement plus symboliques que véritablement décisives. Comme nous l'explique le sociologue Alexis Pire, spécialiste de la question fiscale, le débat sur l'impôt est souvent biaisé du fait de sa technicité. La plupart des dispositifs fiscaux sont aujourd'hui trop complexes pour être saisis de tous, médias et personnels politiques compris d'ailleurs. Et le débat se réfugie alors autour de quelques totems bien balisés au sujet desquels chacun peut s'époumoner. ISF, cotisation sociale, taxe d'habitation. Et tant pis si l'impôt sur le revenu, par exemple, qui est souvent l'objet de toutes les attentions, rapporte désormais bien moins à l'État que la CSG.
Alors Julien Bisson, comment alors réinventer l'impôt pour le rendre plus juste?
Là, c'est une question que nous avons posée à plusieurs économistes dans ce numéro, des économistes de différentes chapelles. Avec chacun, vous le verrez, leur solution, du revenu universel à la réévaluation des niches fiscales, en passant par une refonte de la fiscalité immobilière ou la taxation des bénéfices des multinationales, à commencer par les GAFA. Autrement, comme l'explique encore Alexis Pire, comment expliquer que Starbucks, par exemple, paye 15 fois moins d'impôts que le boulanger d'à côté? Mais malgré leurs différences, ces économistes s'accordent tous sur un point, que le système fiscal devienne plus transparent. C'est-à-dire que nous tous comprenons mieux à la fois quels sont les impôts que nous payons et quel usage est ensuite fait des deniers publics. Transparence donc, pédagogie et surcroît justice, tels doivent être les maîtres mots du chantier fiscal aujourd'hui engagé, histoire que l'argent finisse par ruisseler encore mieux que les larmes sur notre pays. Selon ces mots attribués à Napoléon lui-même, les impôts ne sont que de l'argent prêté, ils viennent du peuple, il faut qu'ils retournent au peuple semblables à ces vapeurs que le soleil attire de la terre et qui les fait retomber en pluie ou en bienfaisante rosée.
Comment réinventer l'impôt? C'est le grand dossier à la une de l'hebdomadaire Le 1, à retrouver en kiosque et en librairie. Merci Julien Bisson, vous restez évidemment avec nous. Dans un instant, on continue à évoquer les bienfaits des larmes. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Game interprété, pas la peine.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h44 et ce matin on s'intéresse aux larmes qui font du bien, larmes de joie ou de tristesse. Le standard, vous pouvez l'appeler au 01 45 24 7000.
Vous savez, le moment de la victoire, il est fort et il dure peut-être une minute. Après c'est délicieux, ça dure et ce moment se puissant, il dure quelques secondes, et voire une minute, et ce moment, je l'ai partagé avec mon père. Et en fait, j'ai pleuré dans les bras de mon père, pleuré de joie. Et du coup, je pense que nous sommes rentrés dans le cœur de beaucoup de monde, parce qu'on a, au-delà de la victoire d'un joueur français, Roland, on a partagé une émotion assez unique, dont les gens se sont souvenus pendant longtemps. Voilà, et on est rentrés dans le cœur, dans les familles, dans le cœur des gens, voilà, parce que forcément, si j'en parle encore aujourd'hui avec certaines personnes de ma génération, ils me diront tous la même chose, on était devant notre télé, on a tous pleuré, on est sautés dans les bras l'un de l'autre. Et c'est vrai que c'est pas banal de pleurer dans les bras de son père, de joie, de tristesse, ça arrive très souvent, mais de joie, c'est rare.
Yannick Noah et ses larmes de joie au micro de Fabrice Abgral sur France Inter en juillet 2018. Pourquoi pleure-t-on de joie, Francis Métivier, vous qui avez écrit La joie des larmes?
Alors, du point de vue du sportif ou de l'acteur ou celui qui a fait quelque chose, je crois qu'on pleure de joie parce que préalablement on s'est fait peur. Sans faire de jeu de mots idiot entre pleurs et peur, il y a juste un L de différence. On a voulu, on a désiré quelque chose, ça a créé une tension, on l'a obtenu, et finalement c'est comme un défoulement. Je veux dire, ce sont des pleurs rétrospectifs, je crois, liés à ce qu'on aurait pu ne pas réussir à faire. L'idée que l'échec était là potentiellement et que finalement c'est la réussite. Mais du côté du spectateur, c'est différent. Les pleurs, c'est plus les pleurs liés à une identification du sportif ou de l'acteur. Il y a deux raisons assez distinctes, je pense. Mais on pleure quand on réussit parce qu'on s'est fait peur.
Anne-Vincent Buffo, je rappelle que vous êtes historienne.
Oui, on peut dire que parfois la joie est un traumatisme qui nous fait pleurer.
Vous êtes d'accord avec ça, François Leland?
Oui,
qui est psychiatre.
Je suis d'accord avec l'idée que les pleurs de joie, ça arrive avec une période de tension. Et il y a aussi le rappel des souffrances passées aussi pour être arrivé là. Et puis de celles qu'on aurait éprouvées si on avait perdu. Donc c'est un noyau, effectivement, où il y a à la fois de la douleur, du soulagement, de la tension. Et quand on pleure, on active un peu ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est plutôt un système apaisant, et ce qui explique parfois, par exemple, qu'après avoir beaucoup pleuré, parfois on a sommeil, on a envie de dormir.
Oui, et puis aussi, est-ce qu'on célèbre maintenant le plaisir des larmes, qu'on a beaucoup célébré au XVIIIe siècle? Tous les grands auteurs célèbrent l'espèce des... Alors, ils disent toujours c'est des moments délicieux. Et il y a une espèce de célébration du fait de s'échapper aussi, d'être à la fois présent à soi et de fondre. Voilà.
Est-il possible de ne jamais pleurer, François Lelort? Et si oui, est-ce pathologique?
Alors, je crois qu'il y a des gens peu émotifs d'une manière générale, donc c'est pas forcément pathologique. Alors après, il y a ce dont vous parliez, Francis, les gens qui répriment à tout prix leurs larmes parce qu'on les a élevés comme ça, parce qu'ils estiment que... Oui, est-ce que pleurer, c'est aussi se mettre en position de vulnérabilité? Je veux dire, on est moins réactif, on est moins capable de riposter, de répondre quand on pleure. Et donc, il y a peut-être on peut être encouragé dans son éducation à ne jamais montrer de vulnérabilité face aux autres. Alors, est-ce que c'est pathologique? On a beaucoup dit que finalement exprimer ses émotions librement, ça faisait du bien. Sans doute, mais c'est pas aussi simple que ça. On a aussi montré que, par exemple, si on exprime trop sa colère ou même sa tristesse en pleurant, on peut se sentir encore plus triste avant. Donc, je crois que c'est très dur de donner des... Enfin, moi, je me sentirais pas capable de donner des généralités. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que parfois, il y a des gens très déprimés dans une grande souffrance et qui sont incapables de pleurer. C'est-à-dire qu'ils sont tellement figés par la souffrance que les larmes ne leur viennent même pas.
Zabel nous dit sur notre page Facebook que longtemps je n'ai pas pleuré, j'encaissais les coups de la vie, dignement, mettant les événements le plus loin possible de moi. Et puis un jour, les vannes ont lâché. Et là, j'ai réalisé que j'avais gardé en moi beaucoup trop de choses, d'émotions. Aujourd'hui, je m'exprime, je pleure, je ris, je vis. Et ça fait du bien, Francis Métivier.
Oui, surtout qu'on peut dépasser les larmes. Encore une fois, il y en a qui... Enfin, les gens qui pleurent font... Enfin, il arrive que ces gens fassent quelque chose de leurs larmes. Enfin, il y en a qui en font de l'art, il y en a qui en font de la politique. Mais je dirais aussi que les larmes, c'est comme le rire. Je ne sais plus qui disait, on peut rire de tout, mais ça dépend avec n'importe... Ça dépend avec qui, enfin, mais pas avec n'importe qui. Je crois que c'est des proches. Mais les pleurs, c'est pareil. On peut pleurer à propos de tout, mais pas avec n'importe qui. Je veux dire qu'on peut pleurer en public, mais il faut choisir son public, hein, je crois.
Julien Bisson.
Oui, mais c'est vrai qu'on pense surtout à des personnages masculins un peu peut-être de génération précédente. Je me souviens pas avoir vu mon père ni mon grand-père pleurer. Mmh. Je pense à ce personnage de, vous savez, dans la série Friends, il y a un personnage à un moment joué par Bruce Willis qui joue le rôle d'un sexagénaire qui n'a jamais pleuré de sa vie et qui est entraîné par sa nouvelle petite amie à enfin pouvoir pleurer et qui d'un seul coup commence à pleurer et ça ne s'arrête plus. Mmh. Et il pleure pendant des jours et on revient à cette idée que vous aviez, Francis Métivier, du glaçon qui d'un seul coup fond et qui devient liquide.
Francis Métivier.
Oui, je crois qu'on pleure à la mesure de la rétention qu'on s'est imposée. Enfin, plus on s'est retenu de pleurer et plus on pleure dès l'instant qu'on se met à pleurer. Je crois qu'il y a par contre des gens qui ne pleurent jamais. Enfin, pour moi, c'est un refoulement. Hein.
Julien nous dit « Émotif, hypersensible, je suis un homme qui pleurait assez souvent et depuis la prise d'antidépresseurs, plus rien ne coule, jamais. Un mot sur le mécanisme bloquant et distanciateur des antidépresseurs. » C'est pas facile à dire hein, ça, Julien Bisson. « Et qui freine et empêche toute libération et tout plaisir que peuvent provoquer les larmes. »
Oui, ça c'est aussi un grand débat. Il est tout à fait vrai que, enfin, le premier très connu pour ça, il y a 30 ans, était le Prozac, que certains antidépresseurs abrasent un peu les émotions. Alors bien sûr, en vous rendant moins triste, vous avez moins l'envie de pleurer, et parfois vous sentez même une certaine distance vis-à-vis de la réalité. Alors, si vous étiez dans une dépression profonde, ça vous fait quand même du bien, vous êtes quand même beaucoup mieux. Mais après, les personnes même qui vont mieux peuvent se plaindre de se sentir un petit peu comme atténuées, si vous voulez. Enfin, elles peuvent penser, elles peuvent être rapides, mais elles ont plus cette facilité émotionnelle.
Oui, effectivement, on en appelle au don des larmes. Le don des larmes, c'est quand même la capacité d'être... C'est partie, effectivement, d'une rhétorique religieuse, mais c'était effectivement quand même une grâce divine que de pouvoir pleurer. Et donc, Saint Louis réclamait le don des larmes et ne l'obtenait pas. Michelet, le grand historien, avait le don des larmes. Voilà.
Je t'aime, Jack. Ne fais pas ça. Ne fais pas celle qui me dit adieu. Pas encore. Est-ce que tu m'as compris? À présent, promets-moi que tu vas survivre.
Je promets. J'abandonnerai jamais Jack. 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 Il y a pas d'autre Jack. Jack.
Julien Bisson, prenez-moi dans les bras. J'ai envie de pleurer. C'est le final de Titanic.
Oui, je pense à tous ceux qui n'avaient pas vu Titanic et à qui vous venez de spoiler la fin du film.
Pourquoi pleurons-nous au cinéma? Tiens, c'est la question que j'ai envie de poser à Carole Desbarra. Bonjour Carole Desbarra.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, historienne du cinéma, très réputée. Pourquoi prenons-nous du plaisir à pleurer au cinéma, Carole?
Écoutez, il y a beaucoup de raisons. D'abord, peut-être le cadre. Le fait que le cinéma, ce soit un lieu de retrait volontaire, dans le noir, dans une communauté éphémère, et qu'on peut se sentir libre de se laisser aller à des émotions que peut-être, par injonction, et vos intervenants l'ont bien montré, l'injonction culturelle, historique à ne pas pleurer, nous empêcherait de faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et ça a été un petit peu évoqué, même par votre réaction, Ali, par rapport à cette fin de Titanic, c'est qu'il y a un système de capillarité. Un de vos intervenants a parlé d'identification. Il y a ça, mais il y a aussi que les larmes à l'écran attirent les larmes du spectateur. Et en même temps, c'est pas forcément les plus émouvantes. Le grand cinéaste américain Frank Capra disait qu'il avait avancé dans son cinéma quand il avait compris qu'il fallait que ce soit le spectateur qui pleure et pas forcément son acteur. Donc, il y a toutes ces raisons. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, je rajouterais aussi qu'il y a les larmes esthétiques. Ça a été dit par certains d'entre vous au niveau de la musique. Il y a des moments dans lesquels vous avez une image absolument sereine. Une petite fille en train de monter une colline avec son papa. Vous avez dessus la pavane pour un enfant de défunte. Et vous avez le fait que le spectateur sait que la petite fille va mourir. Moi, je ne peux pas voir cet extrait du Petit Prince à Dimitri Pascal sans pleurer. Pourtant, à l'image, Ils avaient le bucolique absolu.
Tiens, autour de la table, quel est le film qui vous fait irrémédiablement pleurer? Pour ma part, il m'est difficile de ne pas pleurer en regardant la fin de La Chambre verte de et avec François Truffaut, la toute dernière scène avec cette musique de Maurice Jobert. Je vous avoue que bon, je pleure immédiatement. Et vous, Francis Métivier?
Ouais, un film qui me fait pleurer, c'est Alabama Monroe. Pour des raisons personnelles. Enfin, quand on est père de famille, on pleure forcément devant ce film, Alabama Monroe. Et puis en plus, il y a une bande musicale qui encourage à pleurer.
François Lelore.
Je pense à un souvenir d'enfance, vraiment, qui est la fin du Pont de la rivière Kouaï. Enfin bon, je pense, je sais pas si c'est un film qu'on voit toujours beaucoup, mais qui...
Pourquoi ?
Parce qu'à la fin, on voit ces hommes prisonniers qui souffrent beaucoup, qui repartent au travail... Après que leur ouvrage ait été détruit, en même temps c'est bien qu'il soit détruit puisque il servait les Japonais. Donc il y a une sorte de, c'est un peu le tragique de la condition humaine finalement, que nous luttons, nous nous efforçons de faire quelque chose et finalement à la fin on recommence ou on échoue.
Anne-Vincent Buffaud.
Moi, c'est l'incompris de Comencini. Ah oui. En plus on regardait en famille. Alors donc c'est l'histoire d'un enfant qui est orphelin de mère et bon, qui a un petit frère et bon, on l'accuse de tout, c'est horrible, enfin bref. Et donc on regardait ça en famille, on sanglotait tous ensemble, c'était incroyable.
Julien Bisson.
Moi, je peux pas revoir E.T. sans repleurer régulièrement, mais plus récemment, j'ai encore lâché des larmes il y a quelques semaines devant le Roma de Alfonso Cuarón, qui est un film magnifique, et la compassion devant ce que subit cette jeune domestique mexicaine et vraiment m'a tiré des larmes très très facilement.
Carole Desbarras, on pleure avec plaisir au cinéma, alors que évidemment on ne pleure pas de la même manière quand on est quitté dans la vraie vie.
Et en même temps, quand vous voyez une séparation au cinéma, vous êtes en position d'être quitté.
Oui, c'est vrai.
C'est terrible, c'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps. Il y a une minute noire dans la joie, mais là dans la tristesse, mais il y a une intensité lorsqu'il y a une mise en scène, mais même lorsque le film est mauvais, c'est ça qui est terrible, qui fait que vous êtes liquide. Comme l'a dit un de vos intervenants. Et ça, c'est une des forces du cinéma. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que, au cinéma, le mélodrame, pour les Américains, s'appelle soit Women's Pictures, les films de femmes ou pour femmes, soit Tearjerkers, les films tire-larmes. Et l'association entre les deux est quelque chose de très fort, qui fait que le grand mélodrame américain, et qui parfois a donné des chefs-d'œuvre, est totalement méprisé. Et les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, Chaplin, c'est le plus grand des cinéastes du mélodrame. Et il y a une espèce de mépris culturel, comme votre émission l'a démontré, qui consiste à dire que pleurer, c'est faire signe de
faiblesse,
de fragilité. Et donc, voilà.
Merci beaucoup, Carole Desbarras, d'être intervenue dans l'émission. Tiens, la dernière fois que vous avez pleuré, François Lelore, je m'adresse au psychiatre. Question très personnelle, je sais.
C'est des décès familiaux. Non, mais des décès familiaux. Voilà,
forcément.
C'est pas très original.
Pareil, Anne-Vincent Buffaut et vous, Francis Métivier.
Non, moi, c'est moins tragique. C'est en réécoutant la chanson de Bertignac. Ces idées-là.
Merci à tous d'être venus. Francis Métivier, La joie des larmes, c'est publié chez Pygmalion. On peut lire aussi en poche Une histoire des larmes d'Anne-Vincent Buffaut. Merci François Lelore. Le titre de votre dernier livre, je ne l'ai plus en tête.
C'est Hector et les lunettes roses, voilà. Pour aimer la vie.
Merci beaucoup. Allez, demain on s'intéresse aux bienfaits des agrumes de saison par ces temps froids. Comment les choisir, les conserver? Nous vous proposerons également quelques recettes à base de citron, d'orange, de pamplemousse ou de clémentine. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et proposer vos recettes au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, les joyeux lurons, Kevin Pelot et Maxime Ingrand.